I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler d'Assassin's Creed Revelations, notamment en recevant, pas dans studio, c'est une interview qui a eu lieu la semaine dernière, Jean Guédon, qui est de Ubisoft Montréal, qui est donc le grand chef de l'univers Assassin's Creed. Donc pas seulement des jeux, mais aussi des bandes dessinées, des courts-métrages, etc. Il est en charge de la cohérence globale de l'univers. On écoutera ce qu'il nous a raconté la semaine dernière. On en parlera ensuite, ce que c'est ce jeu. Troisième épisode des aventures de Ezio Auditore di Firenze. Quatrième Assassin's Creed en tout. Monsieur Fall de TrickTrack.net, comme chaque semaine, et Super Mario Land 3D est-il le... Allez, on va utiliser un vilain anglicisme, le système seller de la 3DS.
Ou Killer App.
Pareil. Il y en a plein. Ouais, on s'en fout. Bref, voilà, c'est au programme, ça va être déjà, c'est déjà pas mal. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément.
Bonjour Erwan.
Et Patrick Elio de Rogamer. Bravo. Patrick Elio de Rogamer.fr et de Hitphone.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan. Voilà.
C'est les private jokes.
Il faudra qu'on en parle sérieusement de cette question de salutations.
Bref, on commence avec toi Clément, avec un petit problème du côté de chez Steam.
Oui, on connaît beaucoup d'affaires de hack depuis le début de l'année. Et malheureusement, enfin notamment,
c'est un peu tendance, ouais.
On se rappelle le PlayStation Network qui avait été hacké, qui avait dû s'arrêter, etc.
Pendant plusieurs mois.
Ouais. Alors là, c'est un hack qui touche Steam, la plateforme de téléchargement ultra connue des joueurs PC. Mm-hmm. C'est un hack qui est chiant, mais qui est pas aussi chiant que les autres. Je m'explique. En fait, ce qui a été hacké, c'est les données des comptes forums. Voilà. Donc en gros. Donc c'est problématique parce que les gens peuvent poster à ta place, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi récupéré en partie les comptes Steam. Mmh. Ceci dit, à la différence de Sony, sur Sony, ils avaient récupéré les données des CB en clair, ils avaient tout récupéré en clair, les mots de passe en clair, etc. Là, s'ils les ont récupérés, parce qu'on n'est pas sûr, ils sont cryptés. Les données bancaires sont cryptées et tout est crypté. Ceci dit, Steam, comme tout le monde sait, que c'est pas parce que c'est crypté que c'est incraquable. Donc, ils conseillent de quand même changer le mot de passe. Surtout si on a le même mot de passe que sur les forums.
Juste le mot de passe. C'est la seule chose à changer.
Juste le mot de passe, normalement. Mais ça, voilà, c'est quand même une mauvaise pub pour le service. On sait que rien n'est incraquable, mais c'est quand même, voilà, c'est un frein à l'achat potentiel. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a clairement guéri d'acheter sur le PSN. Je sais pas pour vous, mais moi, je n'achète plus rien sur le PSN depuis.
En même temps, généralement, après ce genre de conneries, ils évitent de... Ils corrigent un petit peu.
Ils corrigent. Mais là, ceci dit, quand même, contrairement à Sony qui avait vraiment fait les marioles en laissant les mots de passe en clair et tout en clair, et les coordonnées bancaires en clair, là, ça avait été crypté.
Ouais, ça devait être blindé,
comme
Steam.
Comme ils disent, haché, salé. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, une traduction peut-être française approximative. Mais en tout cas, les données étaient cryptées. Mais voilà, donc les hackers, les hackers hack tout ce qu'ils peuvent.
Vive le dématérialisé, hein. Ça fait partie des travers.
Eh bien, en parlant de dématérialiser. Belle transition, Patrick.
Oui. On a tous un problème, les possesseurs de PSP actuels. On attend tous la PS Vita, hein, tous.
Oui.
Attend de voir la bécane qui arrive en février.
On a oublié qu'on avait une PSP.
Justement. Oh. Alors, t'as peut-être oublié la console. En revanche, t'as pas oublié tes jeux. On a tous une pile de jeux UMD plus ou moins exotiques. On a tous un jeu Miami Vice tiré du film sorti il y a quelques années. On a tous une collection IR Replay en UMD qui était pas mal avec du Wing Commander. Enfin, on a tous des petits trésors comme ça en UMD qu'on a bien retrouvé sur sa Vita un peu plus tard. Alors, Sony vient de communiquer au Japon sur les modalités de transhumance de ces jeux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces jeux UMD sur la PS Vita, qui, rappelons-le, n'a quand même pas de lecteur UMD à la base. Oui. Hein, donc...
Parce que c'était quand même la grande catastrophe de la PSP. C'était ce lecteur UMD.
Ce lecteur propriétaire, voilà, avec un format spécifique.
Qui bouffait beaucoup de batterie.
Beaucoup de batterie. Rappelez-vous, à l'époque, il voulait sortir un nouveau standard de film. Ouais. Il vendait des films sur UMD.
Il y a eu des, j'ai Ghostbusters comme ça. On va pas en parler deux heures, mais ouais. On a chacun quelques films en UMD. On parle des jeux. Donc, comment est-ce qu'on va les retrouver sur PS Vita? Donc, au Japon, Sony a expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Donc ça va passer par le téléchargement d'une application sur la PSP actuelle, voilà, qui va connecter tout ça au PSN. Et là, ça va permettre d'identifier auprès du PSN qu'on a bien tel jeu en UMD, voilà, et après de le retélécharger sur PS Vita.
Il faudra que tu passes chaque jeu dans ta console.
Alors voilà, et visiblement, ça va être un système d'identification. Ouais. La PSP va envoyer un signal comme quoi on a bien le jeu en UMD. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il va falloir payer pour récupérer une version sur PS Vita du jeu. On repasse à la caisse, a priori.
On est dans le ridicule absolu.
C'est-à-dire qu'on va devoir repayer le jeu pour l'utiliser en téléchargement sur PS Vita. Oui, alors, d'après ce que j'ai lu, ça sera entre 5 et 15 euros donc, pour récupérer un jeu.
Pour récupérer un jeu
qu'on a certifié
payé.
Avoir sur PSP. Alors autre problème, donc il y a l'histoire du prix, ça pose quand même un souci. Et autre problème, c'est que pour l'instant 200 jeux sont compris. Alors pour l'instant, j'ai pas vu le détail, mais tous les jeux ne sont pas compris. Alors, évidemment, les jeux un petit peu exotiques,
jeux, c'est, quand même beaucoup, hein.
C'est pas mal, mais c'est loin d'être l'intégralité. Alors ça va sûrement se développer, mais alors, on a tous des petits jeux un peu exotiques, un peu qu'on aime bien, et ça peut pas forcément être facile de les retrouver. Ils sont pas forcément dans ces 200 jeux concernés.
Sur PSP, sans faire de troll absolu, il y a quand même une vingtaine de gros jeux après.
C'est plus ce principe. Ouais. Voilà, on a une collection de jeux, voilà, c'est bien de pouvoir la retrouver. Et ça, que repasser à la caisse, c'est un peu un souci, quoi. De devoir repayer.
Qu'on va retrouver les Patapons, on va retrouver les God of War, on va retrouver
en passant par ce compte PSN, en réactivant, en signalant qu'on a bien l'UMD.
Voilà. Le com des com de la semaine dernière, Marmotte19 qui fait amende honorable, qui gros mea culpa.
Ah oui,
effectivement,
ça,
Patrick
oui.
a raison. Et franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3, mais la manette de la Master System a bien seulement 2 boutons. Allez, je vais me mettre 100 coups de fouet pour exprimer. Il corrige la manette Wii, livrée avec la console, c'est bien 10 boutons, A, B, plus, moins, Home Power, 1, 2, C et Z. Voilà, c'est bien.
Mais c'était intéressant, cette thématique sur les boutons manette.
N'est-ce pas? Eolan qui parle de Battlefield 3. On parle de Battlefield 3 sans aborder la chose pour laquelle j'enlèverai 2 points d'emblée à ma note sur Sens Critique. Origin et le Battle Log, ou comment jouer à un jeu de 15 gigas version web browser, la démonstration de l'anti-ergonomie. C'est à se demander quel stagiaire misérable a eu l'idée d'obliger à passer par un navigateur pour lancer le jeu, pour changer de serveur, pour inviter ses potes, pour faire tout ce que le concurrent à vapeur fait au sein de ces jeux, et au joie le système plante une fois sur deux chez moi, et tout ça en ayant Origin en tâche de fond, histoire de bouffer des ressources à nos machines.
Ouais, si je peux juste réagir, moi je trouve qu'il a en partie raison. C'est vrai que le problème du lancement sur PC de Battlefield 3, c'est qu'en fait on lance 3 programmes. On lance Origin en tâche de fond, puis un browser avant de lancer le jeu. Maintenant, moi je trouve qu'au final, au début je gueulais parce que j'étais pas habitué à ça, j'étais habitué à Steam. Et au final, quand on joue à Battlefield 3 de manière régulière, passer par un navigateur, il est quand même... Enfin, c'est extrêmement complet, facile d'utilisation. Ça permet d'avoir une espèce de réseau social intégré pour voir où ce qu'ont débloqué ses potes, etc. Et au final, moi, je m'y fais très bien. Mais après, effectivement, j'ai pas les problèmes qu'il a. Chez moi, ça plante pas. Voilà.
Ouais.
Donc, voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se sont plaints.
Mais
de
au début, c'est sûr.
Hein.
Pourquoi c'est pas intégré dans le jeu, tout bêtement, cette page?
Parce que, à mon avis, c'est plus simple à gérer.
Comme une page à part.
Ils auraient pu faire de l'HTML intégré.
Oui, c'est vrai.
C'est comme dans Steam. Ouais. Clairement, ils auraient pu. Ouais.
Ouais. Alors, Monsieur
Mais
U,
on s'y fait, hein.
petite sortie sur Uncharted 3 dont nous avons parlé la semaine dernière. Monsieur U qui dit l'animation de Nathan Drake est juste superbe. Enfin, un personnage de jeu vidéo qui interagit avec son décor, qui a plusieurs démarches. Bref, dont l'animation traduit son état d'esprit au lieu d'être simplement un cycle mécanique. Au passage au début, juste après la séquence du pub, je fais de mon mieux pour ne rien révéler, avec un Nathan nerveux qui regarde dans tous les sens, ça m'a scotché. Enfin, un personnage et pas un avatar. Bravo à Naughty Dog pour ça. Je pense qu'il y aura un avant et un après Nathan Drake. Enfin, j'espère. Force tranquille qui rebondit. Pareil, j'adore le comportement de Nathan Drake. Il courbe le dos, trébuche, met sa main sur les murs. Bref, il ne bouge pas comme un robot et j'adore ça. Et ça ne me dérange pas du tout que ce soit à semi-assisté. Et oui, j'ai basculé. Je suis devenu trop casual. Bon, parce que pour Ico, c'est justement ce qui a mal vieilli. On doit sauter au millimètre près pour attraper une corde et ça, honnêtement, ça m'a bien gonflé. Le truc que je trouve incroyable avec ce jeu, donc encore Uncharted 3, c'est le sens du détail. Chaque pièce est hyper détaillée. On n'y reste jamais plus de 20 secondes. Naughty Dog sont des beaux gosses et ce système de caméra, cette mise en scène, ok, c'est moins prenant de Dark Souls, mais tout de même, ça fait parfois du bien de jouer à un jeu film entre parenthèses, ouais, point d'interrogation.
Surtout qu'on c'est pas intrusif par rapport au gameplay. Ce dont on parle, ces animations, elles ne sont pas intrusives par rapport au gameplay. C'est pas du QTE ou enfin ça se fait.
Non mais c'est vrai que voilà Nathan Drake qui marche dans le désert, c'est bien fait quoi. Ouais. On peut pas leur enlever ça. Alors maintenant on va écouter notre petite interview de Jean Guédon de Ubisoft Montréal qui va nous parler de l'univers Assassin's Creed. Donc on a le plaisir dans Silence on joue d'accueillir Jean Guédon d'Ubisoft Montréal. Donc Jean, ton titre officiel c'est responsable du contenu de la marque Assassin's Creed, mais finalement il y a marque dans ton poste, ça a pas grand chose à voir avec le marketing. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, on va en beaucoup en parler, mais déjà en 2-3 mots, c'est quoi ce poste?
Avec plaisir. En 2-3 mots, c'est pas si compliqué que ça. Effectivement, ça a rien à voir avec le marketing pur. C'est plutôt autour du contenu. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis le lien entre toutes les créations Assassin. Qu'il s'agisse de jeux, bien sûr, mais aussi de BD, comic book, romans, courts-métrages. Et mon rôle à moi, c'est de m'assurer que tous les créateurs comprennent bien la marque pour qu'on continue ensemble de développer un univers qui soit cohérent et qui continue d'inspirer les gens.
C'est-à-dire que en fait tout n'importe quel produit culturel, enfin d'ordre culturel, c'est ouais. on parle pas des t-shirts quoique, hein, tu nous en avais parlé, mais tous les produits sont cohérents. Il y a un univers Assassin's Creed.
Absolument, Assassin c'est d'abord et avant tout un univers qui est cohérent, qui est global et qui est ni plus ni moins que l'histoire de l'humanité qu'on explore petit à petit et de plus en plus. Donc actuellement on a déjà exploré certaines périodes, donc troisième croisade, Renaissance. Et puis une partie un peu là en 2012, il y a aussi la Russie impériale. Et c'est ça, c'est de rendre le tout cohérent et après de décliner sur différents supports, différents médias, quelque chose qui se tient.
Alors, je crois qu'une des particularités de l'univers d'Assassin's Creed, donc c'est d'avoir évidemment des fondements historiques, mais on sait qu'il y a des éléments aussi de fiction. Comment ça s'articule, justement, votre travail entre la réalité, la fiction, l'histoire?
En fait, c'est ça, notre terrain de jeu, c'est l'histoire de l'humanité. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de faire du divertissement et de créer des fictions, comme tu viens de le dire. Donc, en fait, on part du postulat de base que on change rien de ce qui a été fait. C'est arrivé, c'est le monde réel. Le monde dans lequel on est, c'est celui d'Assassin.
Donc, les dates historiques.
Les dates historiques, les personnages, les événements, on les respecte. Par contre, nous, on vous dit la vérité. C'est-à-dire qu'on va vous raconter ce qui s'est réellement passé derrière. C'est de la fiction historique. On joue avec les zones d'ombre, les trous.
Dans l'histoire. Et vous travaillez avec des historiens, avec des experts, j'imagine?
Absolument, ça, on met beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus. Pour chaque création, on a des historiens qu'on consulte, qui nous nourrissent sur les périodes traversées et étudiées, pour qu'on soit le plus fidèle possible. Et c'est vrai que les représentations des villes jusqu'à présent, des lieux, des époques qu'on a traversées, sont, je pense, assez fidèles, en tout cas le plus fidèle qu'on puisse faire.
Alors toi, tu travailles à quel moment par rapport à un développement d'un nouvel opus? Tu travailles bien en amont, pendant, après, enfin peut-être pas après, mais à quel moment tu interviens vraiment sur le développement?
Donc déjà, assez en amont, pour voir où on veut justement emmener la marque, etc. Et ensuite, je fais le suivi avec les équipes de création.
Donc avant même la production, tu...
Avant même la production, c'est-à-dire que nous, à notre niveau de la gestion de la marque, en fait, on s'assure que, ok, on va développer tel produit, etc. Et moi, je réfléchis, je défriche, en fait, avec les scénaristes pour voir, ok, qu'est-ce qu'on va raconter là-dedans. Et donc après, en fait, on brief les créatifs, les créateurs, et avec eux, on s'assure de rajouter des pierres à l'édifice.
Mais vous développez spécifiquement quand il y a un produit qui va sortir, ou alors vous développez aussi l'univers en dehors de tout produit? Par exemple, c'est-à-dire que avant le développement d'Assassin's Creed 3, est-ce que vous commencez à développer vous l'univers, le scénario global en dehors vraiment de tout produit, ou alors est-ce que c'est relatif à chaque fois au développement d'un produit spécifique.
Je serais tenté de dire les deux, mon général. C'est-à-dire que oui, il y a des commandes qui viennent d'Ubisoft et qui là après on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on raconte là-dedans. Maintenant, effectivement, on a développé à l'interne et on le fait de manière constante plein de choses qui jusqu'à présent sont jamais sorties, juste pour s'assurer qu'on solidifie la cohérence et qu'on est prêt à accueillir justement de nouveaux développements. Donc il y a des choses, par exemple sur le programme Animus ou des choses comme ça, que nous on sait, mais qu'on exploitera peut-être pas, mais au moins on est paré.
Au lancement du jeu en 2007, vous aviez une idée déjà de d'où allait la série ?
Je pense qu'il y a une volonté réelle et consciente de préparer quelque chose qui puisse se développer vraiment dans le futur. C'est-à-dire que la structure très particulière en fait d'Assassin par rapport à beaucoup de jeux, quand j'explique en fait qu'est-ce qu'est Assassin aux équipes, essentiellement, il y a une notion qui revient souvent, c'est la structure en oignon. C'est-à-dire que c'est par couche. Ok, c'est avant toute chose, on essaye dans les jeux essentiellement d'abord de ne pas parler aux joueurs, mais de parler concrètement à Desmond. C'est-à-dire qu'on est tout de suite, une fois que vous avez appuyé sur Start, vous êtes en 2012 et vous vivez la vie de quelqu'un. Donc il n'y a pas d'interface, il n'y a rien. Et en 2012, il y a des machines, les Animus, qui permettent, dans une simulation, d'aller explorer le passé. Et ça, de comprendre cette structure-là est très importante parce que le passé n'est qu'une simulation. Donc ce n'est pas une machine à voyager dans le temps, c'est pas, etc. Donc tout ça, cette structure en oignon avec la couche du passé, effectivement historique, mais qui était une simulation dans une machine.
Mise en abîme, en fait.
Mise en abîme complète,
scénario,
c'est ça. Ça, c'était consciemment fait dès Assassin 1. D'accord. Maintenant, tout dépendait de la réception du premier, etc. Évidemment, je pense que les bases étaient là. L'envie était là d'avoir quelque chose.
Et vous avez rajouté donc des couches après, au fur et à mesure de...
C'est-à-dire que les fondamentaux étaient très très forts, très très bons, et ce qui nous permet maintenant de continuer à développer la chose.
Mais moi, ça me fait penser un peu à Lucas, en fait, que pour Star Wars. Eux, ils écrivent même des bibles, en fait. Est-ce que vous aussi, Ubisoft, vous écrivez des bibles que vous faites? Est-ce que vous écrivez dans le marbre, vraiment, en fait, votre univers? Ou est-ce que c'est des éléments épars que vous avez et que vous distribuez, en fait, à vos développeurs en parlant? Ou alors vraiment, il y a des documents de référence auxquels on peut se...
Absolument. Il y a des documents de référence. Ça fait justement partie, c'est au cœur même de mon mandat, de mon travail, de, en même temps, d'être en contact avec les créateurs, mais de leur développer des outils, notamment de référence, pour que justement ils aient les moyens de bien comprendre l'univers. Maintenant, il ne s'agit pas d'écrire à l'avance ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Parce que là, justement, on couperait court à toute leur liberté créative. Donc, on se concentre surtout sur définir des grandes règles très importantes, très fondamentales, qui font la solidité de l'univers. Par exemple, la transmission des mémoires génétiques. Par exemple, donc, qu'est-ce qu'un Animus ? C'est pas une machine à voyager dans le temps, c'est une simulation. Le fait de... C'est ça, comme je disais, comment on transmet les mémoires, ça a des implications sur ce qu'on peut montrer, pas montrer dans le jeu, etc. Donc, quelques règles très précises, très maîtrisées, claires, qui ensuite leur permettent de s'exprimer et de créer dans notre univers.
Mais à l'intérieur de ça, quelle liberté en fait ont les scénaristes, les illustrateurs? Est-ce que vous leur donnez vraiment une grande liberté? Est-ce que vous prenez parfois pour développer cet univers? Est-ce que vous prenez vraiment des idées en fait qu'ils vous soumettent?
Si on en prend pour les réutiliser?
Oui, oui.
Oui, ben c'est ça. En fait, nous, vraiment l'idée de base, c'est on a un univers qui est cohérent. On ne connaît pas tout. Il nous reste à l'explorer littéralement grâce à toutes ces créations. Si je prends par exemple l'exemple de The Fall, qui est le comic book qui a été développé l'année dernière, qui la traite d'un nouveau contemporain qui est Daniel Cross et avec son ancêtre Nikolai Orlov en Russie impériale. Là, on leur a dit explorer. Et les gars, ils ont dit OK, il y a quelque chose qui nous intéresse dans Assassin 2, dans les glyphes, il y a l'explosion de Tunguska, etc. On a dit parfait, vous vous raccrochez autour de ça et vous nous racontez ce qui s'est passé derrière. Donc c'est eux qui sont amenés, qui ont créé leur contenu. Ils nous proposent ça, on valide, on voit avec eux, ça marche, ça marche pas, adapté. Et voilà. Et par contre, une fois que ça s'est fait, que eux ont apporté quelque chose à l'univers, on gèle. C'est la vérité, c'est la réalité, ça s'est passé. Donc si ensuite on veut réutiliser tel personnage, tel événement, etc., dans des jeux ou dans un autre média, on peut le faire. Au contraire, on crée des références croisées. Mais on doit respecter ce qui a été créé par d'autres.
Mais votre poste a été créé de manière concomitante à Assassin's Creed ou il est arrivé après ?
Mon poste a été créé à la fin d'Assassin 2.
Donc en fait, est-ce que vous avez dû vous rattraper aux branches? Est-ce que par moment il y a des choses qui sortaient, on va dire, du cadre que vous auriez aimé avoir? Et est-ce que vous avez dû vous adapter à des choses que vous auriez pas normalement autorisées?
Globalement, tout ce qui est sorti, notamment avec Assassin 2, avec Lineage par exemple, avec Bloodlines, avec Discovery qui sont sortis au même moment, c'était déjà très cohérent. Il y avait Corey May qui était le scénariste principal d'Assassin et d'Assassin 2 qui avait eu là déjà sa patte à mettre là-dessus. C'est sûr qu'après, tout n'était pas forcément exactement dans la ligne qu'on a maintenant définie de manière encore plus claire. Mais globalement, non, il n'y a pas eu de problème et puis ça se passe bien, quoi. Mmh.
Moi, j'ai une question au sujet d'un message qu'on a à chaque lancement d'un des jeux de la série, qui concerne le fait que le jeu est développé par une équipe aux convictions religieuses diverses. Ouais. Pourquoi ce message et est-ce qu'il est adapté à toutes les justement différentes déclinaisons de la série?
Ça reste essentiellement là pour les jeux, mais c'est vrai que ça pourrait être littéralement mis au début, par exemple, de chaque livre, de chaque BD ou quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est vrai que c'est un statement, c'est une affirmation qui est assez importante, qui a été mise au départ sur Assassin, sur étant premier. Donné le contexte qui était un peu sensible, etc.
Sur le premier, oui, la thématique.
Voilà, mais c'est vrai que c'est quelque religieuse. Chose qui au final, qu'on garde, qu'on conserve.
On voit sur le dernier aussi.
C'est ça, et on le conserve. Pourquoi? Parce que ça nous représente assez bien. C'est-à-dire c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on fait Assassin. On veut un traitement mature, mûr. On essaye de sortir de la dichotomie toujours super manichéenne, les bons, les diaboliques. Tu vois, dans notre esprit, les Templiers sont pas le mal incarné absolu.
Parce que ils sont quand même pas hyper sympas, non?
Ils sont pas sympas, cool, mais... c'est vrai. Mais dans Brotherhood, c'était assez schématique. Mais on essaye de garder ça à l'esprit. Il y a d'autres contraintes qui viennent se greffer là-dessus. Mais dans notre esprit, le plus possible, Assassin, c'est gris. C'est pas noir, c'est pas blanc. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, nous, et c'est ce que moi j'essaye d'expliquer justement aux équipes, c'est-à-dire que vous n'avez pas à décrire les Templiers comme justement des êtres diaboliques, dénués de tout scrupule, etc. Fondamentalement, eux ont un objectif louable aussi. C'est-à-dire que les deux ordres, en fait, veulent le bien de l'humanité.
Mais ils ne sont pas d'accord.
Ils ne sont pas d'accord sur comment y arriver. Les assassins protègent et pensent que eux font confiance à l'individu pour être maître de son destin, etc., de ses choix, donc défendre le libre arbitre. Les Templiers, en gros, ont une vision plus conservatrice dans le sens où ce sont des grands enfants, un peu, donc ils ont besoin de les organiser, on va les organiser, les structurer.
Mais de droite, quoi.
Dans leur bien. Pardon.
Ils sont plutôt de droite.
J'ai pas entendu. Et donc, c'est ça, c'est définir. Et ce gris-là, ce que je voulais dire, cette espèce de recul et puis de positionnement plus, on va dire, adulte, qu'on essaye de conserver, c'est vrai que cette citation colle assez bien parce que c'est la réalité. Les planchers de production, c'est ça, c'est quelques centaines de personnes de partout à travers le monde et qui se mettent ensemble
sur un projet.
Pour un projet commun.
En tant que papa, en fait, de la cohérence de l'univers, est-ce que vous avez des jeux que vous préférez à d'autres ou des jeux vraiment où vous savez que c'est, bon, on va dire, l'enfant un peu boiteux de la famille, mais vous l'aimez quand même? Mais est-ce que des préférences ou des...
En fait, je pense que ton analogie est super bonne, justement, en tant que papa et puis les enfants, les canards boiteux, c'est concrètement, tu les aimes tous, quoi. C'est sûr qu'après chacun.
C'est qui le préféré ou c'est qui le moins.
Ils veulent pas.
Non, mais.
Il va leur faire de la peine.
Tu fais la peine aux enfants, ils sont traumatisés.
Ils ont vécu, ça y est, ils sont loin maintenant.
Chacune de ces créations a une belle aventure. Chacune a sa spécificité. Je veux dire, Assassin, c'était l'aventure du premier qu'il fallait absolument sortir, etc. On en parlait, etc. Mais c'était pas un jeu parfait. Donc après, le 2, c'était l'excitation de confirmer, de transformer l'essai. Et puis après, c'est le sentiment de commencer vraiment à bâtir quelque chose qui est dense, là, qui est lourd, qui est profond. Et puis après, c'est à chaque étape, chaque création.
Mais c'est-à-dire qu'au-delà de la gestion de l'univers, tu joues à tous les jeux Assassin's Creed qui sont sortis en intégralité, où tu les as tous regardés en tant que joueur. Ou alors vraiment, tu t'es limité, on va dire, à la conception de l'histoire et
non, jusqu'à présent, j'ai tout joué quand même.
Est-ce que au-delà de la, parce qu'on a surtout parlé de la cohérence scénaristique globale, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui font un assassin un assassin? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a au-delà de l'histoire, il y a quelque chose de l'ordre du look, du rythme, de l'apparence générale, du ressenti, des choses peut-être un peu moins mettre dans une bible, mais oui. Voilà, qui sont de l'ordre du feeling.
Non, mais en fait, ça rentre dans une bible. Mmh. C'est juste que c'est pas de l'ordre de l'histoire. Mais Assassin, effectivement, ce ne sont pas que des histoires. C'est un traitement visuel, une qualité, une exigence justement de qualité à tous les niveaux. Donc, on essaye toujours que visuellement, graphiquement, en termes des animations également, ça soit intéressant. C'est pas juste l'histoire. L'histoire, autrement, on ferait que des livres. Donc oui, effectivement, qu'est-ce qui définit un assassin? Quand on crée l'assassin russe ou Aquilus et Axipiter, etc., avec la BD française, c'est de dire c'est quoi les standards. Bon, là, la capuche, les couleurs, le posing, effectivement, les poses, c'est des maîtres assassins qui doivent être pas héroïques, mais c'est l'élite, tu vois. C'est donc un rapport de... Par exemple, quand tu domines la ville depuis les toits, tu as des angles de vue comme ça, des choses comme ça. Donc moi aussi, effectivement, je suis en charge de transmettre tous ces éléments iconiques qui sont vachement importants. C'est-à-dire la pose, comme je viens de dire, tu es en haut d'une tour, tu regardes en bas, ce qu'on appelle le leap of faith, saut en bas, l'aigle, enfin, t'as des références comme ça qui font que, ok, c'est assassin.
Mm-hmm. Tu travailles avec quelle vision, enfin, tu as combien de temps d'avance sur la licence? Sur l'avenir de la licence.
Fais attention à ce que tu dis. Parce que après, les questions seront moins
simples.
C'est
la question que tout le monde se pose, mais je vais pas la poser, pas tout de suite. Mais tu travailles, tu as combien d'avance sur l'avenir de la licence?
Plusieurs années. Disons que j'aimerais garder mon poste plusieurs années. J'ai aucun intérêt de la faire.
Non, mais il faut poser la question. Il faut poser la question. Non, mais... Et là, tout le monde se demande. Il y a des rumeurs depuis au moins un an, voire deux. Qui court. J'en avais parlé avec Patrice Desilets qui était le réalisateur des deux premiers. Et après, on a eu les croisades, on a eu la Renaissance italienne. Et après, est-ce qu'il y a déjà des pistes, des envies? Ne serait-ce que des envies, parce qu'on...
Des envies, ben c'est sûr. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on a mis, qui est sur YouTube, justement, où on montre, en fait, l'univers avec toute la spirale de l'humanité. Les époques, on peut aller où on veut. C'est ça la beauté, justement, ce que je disais, les fondamentaux sont solides.
Et vous pouvez même aller dans l'avenir, un assassin post-apocalyptique avec un Tokyo dévasté, par exemple.
Non, mais le fantasme.
Je veux dire, c'est comme on l'a vu chez Ubisoft avec les anneaux, une licence historique qui maintenant sort dans le futur avec 2070. Mmh. Est-ce que c'est envisageable pour un assassin?
Bon, alors, ouais, est-ce qu'il y a des interdits pour toi autour de la licence? Est-ce qu'il y a des choses que...
Est-ce que, par exemple, on est sûr qu'un assassin sera jamais dans le futur?
Honnêtement, Erwan va rigoler, mais tout, rien n'est vrai, tout est permis. J'ai pas de réponse.
Erwan a rigolé.
Concrètement, j'ai pas de réponse à ça. Pour l'instant, la question s'est pas posée.
En revanche, j'imagine que connaître les 2-3 ans à venir de la licence influe aussi sur le jeu actuel, quelque part. Peut-être sur les pistes, sur la suite.
Oui, mais c'est sûr
que
justement, c'est ça mon rôle, effectivement, c'est d'être au contact très proche des équipes pour les informer le plus possible.
Parce que ça va
de
aussi,
la vision globale.
Voilà, quelle va être
la mienne. Et que donc, moi, mon rôle, quand je leur explique ça et qu'on travaille ensemble, c'est de minimiser les risques. Mm-hmm. D'incohérence, donc il est hors de question qu'on se mette à raconter, à dire blanc quand on avait dit noir avant, et qu'au contraire, on maximise les opportunités de références croisées, parce que c'est vraiment l'intérêt de la chose, c'est j'ai joué à tel jeu, tout d'un coup je lis tel BD, et là tout d'un coup il y a des choses qui se font écho, c'est là que l'univers... existe dans la tête des joueurs, des lecteurs, etc.
On en a parlé juste avant le début de l'émission. Tu as aussi dans tes attributions un rôle d'archivage, de gérer l'héritage Assassin's Creed. On voit donc qu'il y a une encyclopédie qui est dans la version collector, entre autres, et achetable en ligne. L'encyclopédie de Assassin's Creed jusqu'à aujourd'hui, où il y a plein de dessins, des artworks qu'on n'avait jamais vus, des choses qui existaient, qui préexistaient, qui n'ont pas tous été faits pour cette encyclopédie, mais qui étaient peut-être affichés sur les murs à Ubisoft Montréal, et que personne n'a vu. C'est vrai qu'il y a plein de jeux où ces artworks-là, on les voit jamais, ils arrivent jamais jusque dans les mains du public. Ça fait partie de ton rôle de gérer cet archivage, toutes ces données qui sont produites.
Je le considère, moi, que oui, et j'essaye de prendre ça justement au sérieux. C'est-à-dire que je considère que tout ce qui a été fait, Dieu sait s'il y a eu des efforts justement, et du temps de mis par des centaines de personnes dessus, tout ça a une grande valeur, et qu'il faut en prendre soin. Et en plus, c'est ça, comme tu as dit, il y en a une communauté à l'extérieur qui ne demande que ça. Donc déjà d'en prendre soin à l'interne, que ça se perde pas dans les archives, qui mentionnait ce fait c'est des pertes sèches autrement quoi. Et puis après même d'envisager des réutilisations, mais de manière intéressante quoi.
Bah comme le fait le cinéma, d'autres industries.
Oui, absolument.
Alors pour l'instant, Assassin's Creed, si on fait le compte, donc on a des jeux vidéo sur différentes plateformes, ouais. On a deux courts-métrages.
On a trois, en fait, on a eu les trois courts-métrages Lineage, en fait, ah oui. Qui en font un grand de 45 minutes.
À l'époque d'Assassin 2.
À l'époque d'Assassin 2, qui était du live action sur fond vert, avec Hybrid, qui est un studio donc, d'effets spéciaux et tout, qui est en banlieue de Montréal. Et puis, l'année dernière, il y a eu Ascendance, qui était un court-métrage de 6-7 minutes, qui exposait, en fait, l'ascension de César Borgia, expliqué par Léonard. Et cette année, Embers, qui est un court-métrage de 21 minutes, qui sera disponible dans les éditions collector et aussi sur PSN, Xbox Live.
Alors après, on a deux séries de bandes dessinées, ouais. Une en France et l'autre plutôt format comic books.
Ouais.
Alors, toi aussi, des romans.
Des romans.
Des romans, des nouvelles. Enfin, ouais. Alors, il s'agit de quoi exactement? C'est une novélisation du...
Le début, justement, le premier qui s'appelle Renaissance est essentiellement la novélisation d'Assassin 2. Brotherhood, c'est le Brotherhood, mais plus avec le contenu également, par exemple, de Da Vinci Disappearance, le des DLC. C'est correct en France, DLC. Et puis, on a sorti cette année, qui va être bientôt disponible en France, La Croisade Secrète, où là, on reprend en fait la vie d'Altaïr. Et de plus en plus, justement, on essaye d'être le plus en amont possible pour sortir de la copie conforme, mais donner du nouveau matériel.
C'est-à-dire qu'on sort d'un aspect merchandising, voilà. Pour proposer une extension de l'univers.
Absolument.
Donc, pardon.
Non, je voulais juste préciser que concrètement, dans la Croisade Secrète, donc Secret Crusade qui est sorti, on l'a sorti en fait au moment de l'E3 en juin. C'était pour redonner en fait de la visibilité à Altaïr. On raconte bien évidemment les événements d'Assassin 1, de Bloodlines qui en est la suite directe, mais aussi des événements pré-Assassin 1, des événements post-Bloodlines. Et quand vous allez jouer Révélation, si vous avez lu le livre ou si vous avez l'occasion, vous allez pouvoir vivre ces événements dans le jeu.
Mais est-ce que c'est pas, vu de l'extérieur, est-ce que c'est pas justement trop focalisé sur quelqu'un qui lirait tout, qui vivrait tout? Est-ce que si par exemple, moi, j'ai jamais lu un bouquin d'assassin, j'ai jamais lu une BD, j'ai jamais joué à un assassin, si je joue au dernier assassin, est-ce que je vais quand même avoir... est-ce que si on prend une pièce, on va dire, du grand puzzle, j'aurai quand même suffisamment de plaisir, ou alors c'est vraiment une pièce du puzzle et il faut... entre guillemets, lire autre chose, voir autre chose, lire une BD ou avoir joué un autre jeu pour vraiment comprendre la richesse.
Notre objectif, c'est clairement que chaque création soit quelque chose autonome et de qualité. C'est-à-dire que tu ne joues pas au jeu, mais tu aimes les comic books ou la BD, tu lis ça, ça devrait être un bon produit. Les livres, la même chose. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que si là, tu viens à consommer, j'aime pas du tout le terme, mais... à lire, à voir et à jouer, etc. Plusieurs de ces éléments-là, là, tu te rends compte des liens qui sont faits.
Transmédia,
voilà,
d'accord.
C'est ça.
C'est, par exemple, on n'était pas obligé de jouer à Enter the Matrix, d'ailleurs, valait mieux pas, pour profiter des interconnexions qu'il y avait avec la trilogie.
les animés, etc. On a parlé des livres, des BD, des comics, et le film. Vous avez des infos là-dessus au cinéma? Parce qu'en fait, c'est une marque qui pourrait très bien se...
Non, il paraît que ça intéresse des gens.
Ça intéresse des gens, je crois.
Si un jour vous avez des infos, moi, je suis preneur.
Alors, ce ne serait pas normal si on a les infos.
C'est que j'aurais perdu mon boulot.
Est-ce qu'il y a un média où on pourrait ne pas voir Assassin's Creed?
Bonne question. Est-ce qu'il y a des limites
à Assassin's Creed?
Bonne question.
On pourrait faire un album musical d'Ezio, je sais pas, qui chante un truc un peu pas propre.
Mais c'est ça, tout est envisageable. Je sais, bonne question. Parce que on traite d'assez de choses pour arriver vraiment avec des supports différents. Si on regarde par exemple les glyphes, les puzzles qu'il y avait dans AC2, dans Brotherhood. Tu extrais ça du jeu, tu peux avoir, c'est ça,
un jeu de société
quasiment. Ouais. Concrètement, par exemple, on va sortir là Recollection dans quelques temps. qui est sur iPad, qui est un jeu justement digital de c'est quasiment Magic the Gathering mais en temps réel. Donc avec des cartes comme ça qu'on appelle des mémoires et qui reprennent le contenu des jeux mais traité c'est un autre jeu complètement différemment. Donc la stratégie en temps réel et tout. Qui utilise, et Erwan va être content, c'est-à-dire qu'il y a le volet collection et il y a le volet galerie, où là, justement, vous allez pouvoir avoir, et on essaye justement de...
Et il est prévu pour quand, ce jeu iPad ?
Dans quelques semaines, là. Deux, trois semaines.
Eh ben, Jean Guédon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé nous voir à Silence on joue. Et puis voilà. Et puis, tu écouteras la partie critique de Assassin's Creed Revelation. En podcast, à une prochaine. Merci encore.
J'espère bien. Merci à vous.
Merci.
For three decades, I have fought for those who have suffered the pain of injustice.
The Templars know the truth. Humans are weak.
Bring me the assassin.
Why will you not surrender?
I never learned how.
Fight with me and show them.
Assassin's Creed Revelations. Révélation, la fin de la trilogie Ezio Auditore. La trilogie italienne de Assassin's Creed, la trilogie de la Renaissance.
Plus italienne en l'occurrence, mais enfin.
Oui, plus italienne, en l'occurrence. Exactement. Oui, mais bon, ça a commencé. Hein. C'est la trilogie, tout ça.
On peut peut-être commencer par là, dire que ça, qu'il y a un changement de décor important.
Il y a un changement de décor. Juste un petit point. Clément m'a fait la remarque tout à l'heure. Vous avez entendu, dans l'interview, c'était la semaine dernière, vous avez entendu Joël Métro, de 20 minutes, que je n'avais pas cité en introduction parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Bref. Assassin's Creed Révélation. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Clément, Patrick.
Ouais. Du bien, mais. Ce que j'ai vraiment aimé dans le jeu, alors on le dit quand même, moi ce qui me faisait peur, c'est qu'il sort, il est sorti peu après le précédent, et déjà le suivant est annoncé pour dans un an. Donc même
on
si
est sur un rythme ouais, annuel.
On est sur un rythme annuel, et ça fait bizarre pour un jeu comme ça. On espère que ça ne va pas faire le syndrome Prince of Persia, où ils vont trop essorer la licence, etc. Alors moi ce que j'ai aimé dans ce jeu-là, c'est la ville. La ville, Constantinople, vraiment. Très dense, très intéressante à explorer, superbe. Vraiment, il y a ce trip touristique où on escalade la ville, où voilà.
Le savoir-faire
est là.
Ubisoft,
et je trouve que la ville correspond vachement bien au gameplay du jeu. C'est-à-dire qu'une ville dense, etc. C'est on n'a pas des grandes artères. On est vraiment, on peut la naviguer en 3D. C'est-à-dire vraiment, bref.
Assez différente de Rome et de.
Exactement.
Ce qu'on connaissait dans
ça change et c'est intéressant. Maintenant, je trouve, j'ai pas été aussi pris que dans les précédents. J'ai pas joué à tous les jeux. Le dernier, moi, j'ai fait, j'ai peu joué parce qu'il y avait beaucoup de titres à côté. Donc, je peux parler du multi qui est apparemment bien. Mais moi, ce que j'ai pas aimé dans celui-là, c'est l'implication, parce qu'on le sait, l'Assassin's Creed, comme on l'a entendu dans l'interview, c'est du présent et après on simule des événements du passé. Le changement présent au passé, le scénario, j'ai pas été pris dedans, j'ai pas été impliqué dedans. Après, en termes de nouveautés, j'ai trouvé que c'était des nouveautés qui étaient anecdotiques, à part pour dans le gameplay, on a un grappin, etc. Mais je parle notamment des bombes. Je trouve qu'on va dans la profusion de choses plutôt que dans les éléments. C'est intéressant, mais on sent que c'est fait. Pour le fan, c'est du fan service pur pour le joueur qui a étrillé les jeux précédents et que c'est un jeu plus dense, plus complet, qui est intéressant quand on va dedans sans avoir joué aux autres. Mais même en termes de prise en main, je le trouve plus riche, mais plus complexe aussi.
Je pense que l'exemple
Ça va pas. Voilà. Il y a des petits trucs qui sont. Donc c'est un très bon jeu. Mais c'est non. Voilà.
On va y revenir en fait.
La section, les sections de tower defense, de sections de jeu qui sont intégrées comme ça dans l'expérience, je trouve qu'elles sont pas forcément très.
Bon, elles sont courtes aussi.
Alors les.
Elles sont pas obligatoires.
Pour ne pas perdre les auditeurs qui ne suivent pas tout. Donc, si vous avez joué à Assassin's Creed Brotherhood, vous connaissez le principe. Il y a des tours à conquérir. Il y a les tours des Templiers qu'il faut conquérir. Il faut tuer le chef et après allumer la tour. Et à ce moment-là, ça devient le territoire des assassins. Cette fois-ci. Les Templiers peuvent reprendre un territoire déjà conquis.
Ils attaquent automatiquement.
Et à ce moment-là, le territoire est contesté. Et il faut le défendre via un mini-jeu de tower defense.
Où on a les assassins qui sont postés.
Super bien designé parce que ils ont notamment voulu que Ezio soit toujours à l'écran, ce qui est une décision.
Mais c'est pas très long non plus.
Moi, c'est pas mon type de jeu perso, donc j'ai un peu zappé moi ces passages-là. J'ai pas du tout accroché. C'est vrai que c'était un peu accessoire et. Je pense qu'il y a peut-être un risque aussi de vouloir trop, comme tu disais Clément, trop vouloir en faire. Et c'est vrai
moi, ce que j'aurais aimé,
un risque de dispersion.
Moi, ce que j'aurais aimé, c'était qu'ils prennent. Mais c'est peut-être, je suis pas forcément le fan de Assassin's Creed de base. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils développent des petits trucs. Notamment, c'est vrai que l'avantage, c'est du jeu, c'est la fluidité. Quand on court avec son héros, on peut vraiment grimper tel un Spider-Man au mur, etc., s'agripper à tout de manière assez fluide. Moi, je trouve que par moment, il s'agrippe à des trucs auxquels j'ai pas envie qu'il m'agrippe. Voilà, des petits trucs et pas d'autres trucs.
On avait ça dans Batman aussi.
Mais par exemple, c'est peut-être ces petits trucs-là qui auraient pu être. Enfin, moi, j'aurais préféré qu'ils mettent du temps là-dessus plutôt que dans des. Mm-hmm. Mais bon, voilà. Craft de tonnes de bombes différentes avec des tonnes.
Après, effectivement, il y a des choses qui. Voilà, on attend toujours pas mal d'un Assassin's Creed. C'est vrai qu'il reste assez proche.
Il n'y a pas de grosses nouveautés.
Avait connu sur Brotherhood qui était déjà assez musclé. Il y avait pas mal de nouveautés, le multijoueur, etc. Moi, je suis assez fan de la série. C'est vrai que j'ai accroché au scénario, le fait de retrouver un perso qui a vieilli.
T'as accroché au scénario de celui-là ?
Ouais, j'ai trouvé que c'est intéressant de voir le personnage qui vieillit, la façon dont c'est mis en scène dans le jeu, la façon où on entend même des remarques de personnages, etc.
Ouais, on a Ezio, donc.
Qui a une cinquantaine d'années.
Voilà, qui est pré-retraité.
Donc, qui est vieux pour l'époque. Enfin, 50 ans pour l'époque, c'était. Hein. Et je trouve que c'est bien mis en scène. Et puis il y a toujours je trouve qu'il y a une qualité dans Assassin depuis le début, c'est l'écriture, les dialogues, la façon dont les personnages.
Moi, je suis pas d'accord.
En profond désaccord.
Oh là là, on a joué contre toi.
Non, mais je trouve que sur celui-là ils se sont améliorés au niveau des dialogues. J'ai toujours pensé que c'était une des faiblesses, pas forcément en absolu,
par rapport à la
concurrence. Il faut regarder les dialogues chez Rockstar par exemple.
Et on sait les mêmes univers,
et en même temps ça montre qu'on sait faire des dialogues dans le jeu vidéo.
C'est pas les mêmes contraintes, je pense.
En termes de mise en scène, de dramaturgie et de dialogue, je pense qu'il y a un niveau auquel n'arrive pas Assassin's Creed.
Par contre, ils sont très forts en CGI,
en animation cinématique.
Et puis un des éléments qui était important en fait dans ce volet, c'est qu'on retrouve Altaïr. Donc c'est le héros du premier qui était un des personnages vraiment emblématiques de la série. On va le jouer sur plusieurs mini sections du jeu dans certains épisodes. Ça reste des sections un peu petites, un peu légères.
Elles sont
rapides. Ouais. Moi, j'espérais ce qui aurait été peut-être intéressant, c'est d'avoir développé le côté réponse dans le temps d'action. Je pensais à Dev's Tentacle, rappelez-vous, on faisait une action dans le passé et il y avait un impact sur le futur ou sur le présent.
Rappelle-toi ce que j'ai développé. Rappelle-toi ce qu'a dit notre invité la semaine dernière.
De cette semaine.
Clément. Alors ça c'est.
Alors rappelle-toi de ce qu'il a dit tout à l'heure, n'est-ce pas ?
L'Animus
n'est pas un voyage dans le temps. L'Animus n'est pas un temps. L'Animus est une simulation du passé. Mmh. Donc, tu pouvais pas avoir d'impact du passé sur le présent.
Et en même temps, ce sont quand même des actions qui ont eu lieu, finalement. Ouais. Les actions qu'on joue avec Altaïr ont quand même eu lieu, au final. On réécrit l'histoire. Ça pose une question. Et sinon, il y a quelques changements. Il n'y a plus de cheval. Enfin, moi, j'ai pas eu de section. Dans les précédents,
c'est plus dense, c'est plus compact.
Et ça, on reste sur une ville.
Mais la ville est magnifique.
Il y a des fulgurances, je trouve, graphiques sur le temps réel des journées qui passent, la nuit qui tombe peu à peu. Je trouve que c'est super bien mis en scène. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de redites aussi dans les rues lorsqu'on rencontre des personnages. C'est vrai que c'était un truc récurrent dans les Assassin's Creed. Ils avaient trois phrases et qui revenaient tout le temps. Là, je trouve que c'est beaucoup moins flagrant. On a des redites, mais beaucoup moins qu'avant. C'est beaucoup moins.
Mais les passages dans le
moins frappant.
Présent, on va dire, avec Desmond, je les trouve.
C'est ça.
Puis il y a le fait qu'il est bloqué maintenant. Enfin, on va pas spoiler, mais.
Non, c'est pas du spoil.
C'est pas du spoil.
Et ça, c'est vrai que ça impacte moins. C'est vrai qu'il y a moins cette transition qui était
plus intéressant, je trouve, apparemment,
rythme, c'est juste
entre le futur et le
perdu, quoi.
Le souci, ouais. Donc voilà, Desmond qu'on a quitté à la fin de Brotherhood, pour ceux qui ont suivi, dans une situation un peu bizarre, sans vouloir, on va pas spoiler la fin de Brotherhood quand même, mais bon, bref, il est dans le coma, hein, donc il est inconscient, il finit le jeu inconscient, et donc il commence révélation dans la matrice, dans l'animus en fait, dans un univers virtuel, et il va à ce moment-là.
Ça ressemble au dernier monde de Inception, le plus profond aussi. Moi, ça m'avait un peu pensé.
Ouais, l'enchassement comme ça d'expérience.
Et donc il va continuer à suivre, à revivre les aventures de Ezio, donc cette fois-ci plus vieux, Constantinople, qui va à la recherche des 5 clés qui vont lui permettre d'ouvrir la bibliothèque d'Altaïr.
Fameux Altaïr. Il y a tous les secrets, visiblement.
Le gros souci pour moi, en fait, de ce jeu, c'est que d'une part, c'est désincarné. Et le Assassin's Creed, c'est désincarné. Un peu comme Desmond. Le joueur se retrouve un peu comme Desmond, pris dans l'animus, pris en dehors de la réalité. C'est-à-dire que, avant, il fallait lutter contre les Borgia. Il y avait un vrai but. Il y avait le venger la famille, hein, dans Assassin's Creed 2. Il fallait lutter contre les Borgia. Il y avait quelque chose qui est de l'ordre de la mission, de l'ordre de...
Bon, on était impliqué.
On s'impliquait dans quelque chose. Là, il faut retrouver 5 clés. Alors,
Avec une promesse,
il faut découvrir la bibliothèque d'Altaïr. Mais on sait, on est des joueurs de jeux vidéo, donc retrouver 5 clés dans un jeu, on l'a déjà joué plein de fois.
En même temps, moi, j'ai bien aimé le côté un peu paumé du personnage qui se retrouve donc dans une ville qu'il connaît pas du tout, et où justement avec lui, on apprend un peu à connaître les factions,
justement,
les différentes. Et je trouve que c'est pas mal, c'est assez intéressant.
C'est désincarné,
ça,
et quelque part, c'est assez étrange parce que pour moi, l'erreur d'Ubisoft, parce que pour moi, c'est une erreur. Même si je trouve encore, j'adore passer du temps sur ce jeu. Hein. C'est vraiment. Mais l'erreur d'Ubisoft, c'est de s'être concentré sur ce qui fait la force d'Assassin's Creed. Je m'explique. Ce qui fait la force d'Assassin's Creed, c'est le voyage. C'est presque le tourisme. Hein. On visite Rome comme on l'a jamais visité, Venise comme on l'a jamais visité, parce que on la visite au XVIe siècle. Ouais. Donc, et là, on visite Constantinople. Et c'est génial. On visite les rues et tout ça. Et donc, ils se sont concentrés là-dessus. Ils nous offrent une ville magnifique. Il nous offre une manière de la découvrir avec les petites missions. Il y a des nouvelles missions où quand on fait monter ses assassins, on les fait garder un repère d'assassins, et puis à ce moment-là, ça déclenche des missions secondaires, etc.
Il y a un aspect économique dont Joël a parlé dans son papier cette semaine, sur tout l'aspect économique du jeu qui existait déjà, mais qui est là encore, même
l'aspect économique, pour moi, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Rome était détruite par les Borgia qui avaient fait du mal, c'était les méchants et tout ça, et il fallait que les assassins reconstruisent. Là, on débarque à Constantinople. Pourquoi est-ce que je vais reconstruire Constantinople?
C'est un investissement. On investit. C'est très pragmatique, dans la
capitaliste et capitaliste.
C'est ce que tu disais.
Pour les plus-values.
Et du coup, en fait, effectivement, on prend du plaisir à visiter. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui fait la force.
Tu parles des enjeux, vraiment des enjeux.
Oui, ça fait la force d'Assassin's Creed. Mais ce qu'il y avait autour, dans les jeux précédents, c'était une implication. C'est-à-dire que, oui, tu vas visiter une belle ville. Tu vas kiffer vraiment de monter les grandes tours et d'appuyer sur la touche pour faire tourner la caméra. C'est un effet de faire le saut de l'aigle en haut depuis le haut des tours et tout ça.
Et les combats, les assassinats, etc.
On va te dire pourquoi tu le fais. Et là, moi, je suis là, je fais.
Je trouve que c'est intéressant la piste du déracinement du personnage. Et je suis assez d'accord sur le fait que, je trouve que le jeu est plus sombre que les précédents. Je trouve que ça contribue aussi à ça. Et plus gore. Je sais pas si vous avez remarqué les combats.
Ouais,
il me semble qu'il y a une.
Ça tranche.
Et vraiment, il y a vraiment des scènes où on transperce un mec dans la tête, on retourne,
et puis on pousse,
j'ai l'impression qu'il y a une accentuation et que tout ça contribue aussi à noircir l'univers.
Ça le désincarne, c'est-à-dire que Ezio, finalement Ezio avec qui on avait eu envie de s'impliquer dans sa vie, en tout cas dans les deux premiers épisodes de la trilogie Ezio, ici. Ah, c'est plutôt quelqu'un qu'on accompagne. Hein.
Moi, c'est ça ce que je dirais, c'est que si en gros on connaît pas Assassin, je ne conseillerais pas aux gens de commencer par celui-là.
Voilà, moi je conseillerais aux gens de commencer par le 2 ou par le
Brotherhood. Le 2 était, oui, ouais. Le 2 est vraiment...
Le 2, Brotherhood. Après, si on est un fan d'Assassin, etc., il est très bien, voilà, il est quand même consorté avec les magnifiques.
Oui, parce qu'on retrouve...
Ça reste un bon jeu.
On retrouve toujours le souci du... Bah, comme tu disais, la ville est splendide, ouais. On retrouve toutes les bâtisses.
Ça reste un bon titre, en tout cas, moi ça me fait vachement peur pour le prochain aussi.
C'est une très très belle réalisation. Après, oui, moi je pense que sur le prochain, de toute façon, il va falloir... Bon, c'est un nouvel univers, donc il y aura aussi d'autres choses qui vont s'installer.
Je pense aussi.
Il
ouais.
y aura aussi d'autres choses qui vont.
Ça peut le message. Clair, on ferme la page aussi Ezio. Donc je pense qu'il y aura un besoin de renouveler vraiment le gameplay aussi, enfin d'apporter vraiment des choses sur le prochain. C'est clair.
Et bon, moi c'est, en tant que fan pur et dur hein, de la série Assassin's Creed, ça m'écorche un peu la bouche de
mais ouais, parce
ça.
Que
c'est une vraie déception, mais d'amoureux de cette licence là.
Après, j'y joue et
je prends pied. Alors aussi dernier point, il est beaucoup plus court, il est deux fois plus court que
et plus dense, mais plus dense.
Mais les musiques sont toujours aussi superbes aussi. Enfin, faut quand même le souligner parce que c'est pas toujours le cas dans le jeu vidéo.
Et
le multijoueur est mieux amené, je trouve aussi.
Et ben donc Assassin's Creed Revelation sur PC aussi, je crois.
Oui, un peu plus tard, je crois, quelques semaines.
PS3 et 360 en tout cas. On accueille maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, j'ai décidé de vous proposer d'assouvir votre soif d'ultra-violence, car je sais que vous aimez ça, grâce à un jeu de fight, un jeu de combat qui va vous permettre de taper sur vos adversaires, sur vos camarades, sans vous abîmer vos petits doigts graciles et douillés. Ce jeu répond au nom de Ultimate Warriors, Tribal Rumble. C'est un jeu signé Guillaume Blossier, édité par une toute jeune maison d'édition, Pulsar Game. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 30 minutes. Nous sommes donc là dans du familial plus, dans du jeu rapide, simple et efficace. Alors donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans une boîte de Ultimate Warriors? Déjà, vous allez pouvoir fabriquer un petit ring au centre de la table en retournant la boîte, en utilisant un accessoire ou deux qui est fourni à l'intérieur. Vous allez fabriquer une espèce de genre d'arène sur laquelle vous allez vous friter avec vos amis. Vous allez ensuite récupérer une petite figurine et les cartes correspondantes à votre personnage, 8 cartes exactement, car si tout se passe bien, vous allez pouvoir jouer 8 fois durant la partie, pas plus, mais peut-être moins si vous vous faites éliminer avant la fin. Et ces cartes sont numérotées de 1 à 8. Elles représentent la vitesse à laquelle vous allez jouer et elles représentent votre personnage, ses déplacements et ses coups spéciaux, car comme dans les jeux vidéo, chaque personnage a un coup spécial à lui qui lui appartient que les autres n'ont pas. Donc, en début de manche, vous allez choisir une carte que vous allez garder secrète au départ, posée devant vous, devant votre emplacement sur la table. Et on va faire une espèce de contre-à-rebours, car chaque carte est numérotée de 1 jusqu'à 8. On va faire 8, 7, 6, 5 et ainsi de suite. Et quand on appellera une valeur et qu'un des joueurs aura joué cette valeur de carte, il retournera sa carte et effectuera ce qui est écrit dessus, c'est-à-dire un certain nombre de déplacements, puis un certain nombre de coups à distance ou au corps à corps en lançant un certain nombre de dés. L'astuce, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez joué votre coup, votre carte est défaussée. Et on reprend le compte à rebours et ainsi de suite. Chaque joueur va donc dépenser une carte à chaque manche, carte qu'il ne réintégrera pas à sa main. Et donc là, au fur et à mesure que la partie avance, vous savez qui a gardé sa carte 8 ou qui a consommé déjà son 1 pour jouer avant les autres. Donc il y a un petit peu de stratégie pour pouvoir placer ses coups comme il faut vers la fin. Et c'est très important. Car ce qui est amusant dans Ultimate Warriors, c'est que vous allez devoir faire des alliances, surtout si votre personnage est tout petit. Par exemple, vous avez un gros dragon énorme avec beaucoup de points de vie, mais qui se déplace tout doucement. Et ce gros dragon, il va falloir l'entamer à plusieurs si vous voulez gagner. Donc il va falloir vous associer à d'autres petits joueurs autour de la table pour d'abord taper tous ensemble contre le dragon. Et à un moment donné, vous allez devoir bien sûr trahir. Vous allez devoir taper sur vos amis début de partie pour pouvoir les éliminer parce que le dernier survivant gagnera et remportera la partie. Donc c'est un jeu amusant puisque vous allez devoir faire de la diplomatie, moubourrer les autres, c'est-à-dire les manipuler mentalement pour qu'ils puissent taper sur l'autre personne plutôt que vous, etc., etc. Et ça c'est super amusant puisqu'en 30 minutes vous avez de la monstrée de stress, de l'adrénaline, c'est amusant, vous tapez, vous évitez des coups, vous trahissez, bref, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment entre amis. Ultimate Warriors, c'est un jeu de Guillaume Blossier, un jeu édité par Pulsar Game pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des durées de 30 minutes. Une boîte bien remplie que vous allez trouver aux alentours de 30 euros dans toutes les bonnes boutiques. Si vous avez envie de passer un bon moment en tapant sur vos adversaires, sur vos amis, si vous avez envie de les trahir après leur avoir tapé sur la gueule et leur avoir expliqué que vous, il fallait pas vous taper parce que vous étiez très 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 gentil, ce jeu est fait pour vous. Quant à moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net. Yeah. Super Mario Land 3D, le Super Mario de la 3DS, hein, celui qui était légèrement attendu depuis la sortie de la console au début de l'année, en tout cas en Europe. Oui, j'ai complètement zappé la minute culturelle. Bon, elle revient la semaine prochaine.
Dommage, hein, oui, c'est dommage. Mince, on était prêts là.
Alors, le plombier en relief, ça donne quoi?
Je t'en prie.
Allez, Patrick.
Vas-y. Ben c'est ça. À quoi on voit qu'un Mario est réussi? C'est, pour moi, c'est tout simple. Hein. C'est quand on se prend sa dose le matin et le soir. On peut plus s'en passer. Moi, depuis que j'ai reçu la cartouche, j'arrive plus à m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai vraiment sombré dedans. C'est vrai qu'il était très attendu parce que, comme tu disais, sur 3DS, c'est le premier jeu Mario en tant que tel. Donc, attendu un peu comme une locomotive pour relancer aussi la 3DS et donc vraiment attendu au tournant. Ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Mario 3D. Moi, je le vois plutôt comme un 2,5D et je trouve que c'est plutôt bien joué. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la représentation. C'est qu'on n'est pas sur un Mario 64 en 3D complète, c'est-à-dire qu'on a, je trouve que la mise en scène à moitié isométrique, à moitié 3D,
ça mélange les deux selon les niveaux.
Exactement, ouais, ouais, et ça, ouais, je trouve que c'est super bien joué.
Ouais,
et
je suis d'accord avec toi.
Alors, pour faire simple, il est graphiquement super réussi. Je trouve que pour moi, c'est une des, c'est pas une 3D tape à l'œil, mais c'est une 3D qui est plutôt fine avec des subtilités dans les niveaux, avec des effets d'optique parfois qui sont.
Parce que là, on parle bien de 3D relief. Hein,
ouais, la 3D relief.
On parle de 3D relief. Le gameplay et on rentre très vite dedans. Enfin voilà, je trouve qu'il remplit vraiment son office et il est super. Voilà, il est.
Je trouve, ouais, je trouve que c'est le jeu quand on en parle, on a un sourire parce que c'est moi, c'est pareil. Moi qui suis pas, enfin, j'aime les Mario parce que c'est des jeux qui sont souvent assez hallucinants. Mais ça, c'est moi, c'est le premier qui m'a vraiment accroché depuis longtemps parce qu'il est transportable, parce qu'il est sur DS, parce que les niveaux sont petits, sont courts. C'est des niveaux qu'on peut jouer vraiment dans une courte session de jeu.
Rapidement, ouais.
Rapidement.
5-10 minutes.
Chaque fois, on est, on le remplit. Alors, c'est facile. C'est effectivement, si on veut juste finir le niveau, c'est facile. Certains y verront une faiblesse. Moi, j'y vois une force. J'aime. Alors, ça ne veut pas dire qu'on meurt pas, hein. Mais,
Il est pas très dur.
On n'arrive jamais au game over.
On meurt souvent.
Après, ouais, on meurt un peu plus souvent. C'est toujours pareil pour les Mario. On peut recommencer le niveau et chercher les 3 étoiles. Et donc là, on meurt peut-être un peu plus souvent.
J'ai pas encore fini, mais c'est vrai qu'on avance très très vite.
Non, on avance vite. Mais moi, je trouve que c'est comme un bonbon sucré, super agréable.
Ça, je suis d'accord.
Tu le manges, ça fait du bien, tu en manges. Bon, bah, après, t'en as pas 3 kilos, t'en as 500 grammes. Mais c'est parfait, c'est, voilà.
Et moi, j'ai vraiment senti.
C'est pas lourd sur le ventre, quoi.
Je l'ai vraiment senti, moi, la convergence entre le Mario de la DS, le Super Mario DS, qui était vraiment 2D, une logique 2D. Et une logique 3D de Galaxy.
C'est une sorte de best-of.
Et je trouve qu'il y a vraiment, il est vraiment à la convergence de tout ça. Il se nourrit des différences.
D'ailleurs, c'est.
Il y a un nombre de clins d'œil. Moi, j'ai eu des larmes. Il y avait un niveau très Mario 64, moi, qui m'a frappé.
Franchement,
il est blindé de clins d'œil. Et puis,
c'est du gameplay. Et c'est varié. C'est super varié, en termes de gameplay. Même si c'est Mario qui saute à chaque fois, il a plein, comme d'hab, voilà. Mais c'est super varié. Moi, franchement, j'ai vraiment. Et puis, tu l'as dit, t'as totalement raison. C'est le premier jeu en relief auquel je laisse toujours la 3D relief au maximum activé, ça fait pas mal aux yeux. Moi, je porte des lunettes, ça m'a jamais fatigué le crâne, et ça apporte au gameplay. On sent qu'il a été pensé
la subtilité,
depuis
le
départ pour ça.
On a une...
Et t'as, voilà, c'est subtil.
On a une petite manette pour, on peut pas vraiment diriger la caméra. En revanche, avec le stick, la croix, on peut donner des coups de caméra à droite à gauche. Et ça permet parfois de voir un relief sur une plateforme.
Il y a aussi un choix de gameplay.
Il y a des trompe-l'œil, il y a des effets d'optique.
Il y a un choix de 3D qui est en relief pur, que moi je préfère. Et il y a le 3D, en profondeur, que Patrick préfère.
Après, c'est une question de vue.
Moi, j'aime bien c'est juste un détail, mais j'aime bien les petites jumelles quand il y en a dans un niveau.
Oui,
qui permettent de voir la suite du niveau.
Et qui permettent de débloquer aussi l'étoile souvent.
Ça rappelle Mario 64 pour les anciens.
Non, franchement, moi j'ai trouvé ça. Bon, alors après, c'est vrai qu'on avance relativement vite si on veut juste finir le niveau. Mais moi, je trouve que c'est.
Quel pied, ouais.
Niveau court, intensif.
Le côté bonbon sucré, je suis assez d'accord.
Et vraiment, tu peux t'en manger 10 d'affilée quand tu fais une grosse session, ou tu peux juste, tu prends
t'as
le métro.
T'as mal aux dents après,
tu prends le métro, tu prends le bus, t'as le temps de jouer à ton petit jeu, à ton petit truc, et c'était plaisir.
Alors, moi, j'ai trouvé très facile, parce que je ne suis pas un hardcore de Mario, et finir le premier monde sans mourir, avec, il doit manquer sur tout le premier monde une des grosses étoiles.
Je
les ai pas vraiment cherchées. Hein.
C'est le premier monde, mais c'est vrai que c'est pas.
Quand tu sors du Mario Wii qui était infernal.
Génial,
mais infernal.
Je sors tout juste du Mario Wii.
C'est pas la même difficulté. C'est clair que c'est pas du challenge pur. Voilà.
Ouais, et alors ce qui est rigolo, c'est.
C'est du plaisir.
On a le droit de critiquer quand même.
Évidemment.
Quand on regarde la jaquette, d'ailleurs, quand on regarde derrière, c'est le meilleur de Mario. C'est pas le meilleur Mario, c'est le meilleur de Mario
derrière.
Il y a ce côté best-of, ce côté compile qui est assumé.
Ses vêtements, aussi, il avait différents costumes.
Patrick avait raison d'insister là-dessus. C'est vrai qu'il est en 3D, au lieu d'être en 3D relief, il est en 3D dans son gameplay, mais il mélange beaucoup de passages. Où le jeu a beau être en 3D, ça reste du 2D
c'est
en gameplay.
C'est la logique 2D. Et ce qui rend facile à jouer.
Voilà. Ça mélange tout et ça rend facile à jouer. Et
c'est toujours très clair. Et l'image est toujours très claire. Et c'est ça qui est important sur un jeu 3D.
Alors, sauf que la 3DS, elle a pratiquement un an. Elle a pratiquement un an, cette console. Sortir la 3DS avec ce Super Mario Land 3D, ça aurait été bien. Ça aurait été plein de promesses. Regardez ce que peut faire notre console. Sortir un Super Mario Land 3D un an après, là où on voit que c'est un petit peu le désert en termes de ludothèque sur l'année passée.
Justement, tout le monde va l'acheter.
Mais est-ce que justement ça fait acheter une
Mario Kart aussi
à mon avis tous ceux qui ont la console vont acheter le jeu enfin en tout cas tous ceux
un Mario oui c'est un
mais
peu
c'est, mais,
oui,
mais c'est vrai que ça il vaut vraiment le coup. Après c'est vrai que si on achète la console juste pour ce jeu ça fait quand même cher pour
il faut voir Mario Kart on va voir Mario Kart mais
il faut voir c'est vrai qu'il y a Mario Kart
en tout cas pour Cyclax c'est le jeu 3DS auquel j'ai joué le enfin, c'est le jeu 3DS qui m'a le plus accroché de loin, quoi,
ouais,
de tous.
Ouais. Non, bah oui, c'est indiscutable. Ouais.
Super Mario Land 3D, donc qui sort ce vendredi, juste là. En même temps qu'un certain Zelda dont nous parlerons la semaine prochaine. Et ben, c'en est fini cette semaine avec le jeu vidéo. Je crois qu'on a fait un tout petit peu long, mais c'est pas grave. Et la question rituelle, vous n'y achetez pas quand même. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément?
Moi, je suis allé au Grand Palais, pas voir l'exposition Game Story, mais voir l'exposition. Je suis allé dans la grande nef, hein, dans le grand palais, et je suis allé voir l'exposition Paris Photo, qui était du 9 au 13 novembre. Et c'était très chouette, voilà, moi qui suis.
Je suis sûr qu'il n'y avait pas de photos de console, ni rien, je suis sûr.
Non, il n'y avait pas de photos de console. Mais il y avait des photos de voitures qui ressemblaient à Fallout, donc moi ça m'a fait plaisir. Non, c'était une belle expo, et c'était un nouvel écrin, parce qu'avant elle était ailleurs, et je trouve que ça lui va bien. Donc l'an prochain, essayez de ne pas la louper au Grand Palais. L'exposition Paris
elle
Photo. Elle est finie là, du 9 au 13.
Ah d'accord.
Patrick.
Alors moi je vous parlais de mon cycle film noir la semaine dernière, j'enchaînais sur un autre cycle complètement différent, toujours en cinéma américain mais plutôt années 50 et sur une thématique des bestioles énervées hein, dans les années 50. Alors je me suis fait cette semaine The Naked Jungle. Alors en VF ça donne Quand la marabunta gronde.
Avec une belle traduction.
Un Charlton Heston de mauvais poil pendant tout le film et qui fait face à une attaque de fourmis énervées.
Géantes.
En Afrique, non, petite mais très nombreuse et qui bouffe tout. Et voilà, un grand numéro de Charlton Heston qui vaut vraiment le détour. Et j'ai enchaîné avec La Piste des éléphants, un film de 54 avec Elizabeth Taylor et le grand Dana Andrews. Alors là, cette fois, ce sont des éléphants qui sont très énervés et qui flinguent une maison, mais une maison, un palace qui a été construit sur La Piste des éléphants. Donc ça se passe mal, les éléphants sont très énervés. Et voilà, deux films plutôt sympas en Technicolor qui pètent bien avec des animaux énervés. Et bon, j'aime bien, c'était mon kiff de la semaine. Alors, on est là pour en parler aussi.
Ouais, il faut.
Erwan, j'ai dit une bêtise.
Non, j'ai du mal à m'en remettre. Moi, bah ouais. Alors, je fais un peu ma pub, mais c'est en toute fin d'émission. Il n'y a plus que deux auditeurs qui écoutent. C'est juste, samedi, librairie Arkham, donc 7 rue Broca à Paris. Je serai en dédicace de 15h à 18h pour le start, la grande histoire des jeux vidéo. Ouais. Donc, vu que je stresse tellement de me retrouver, tu sais, tout seul derrière ta table, machin, en train de me bourrer la gueule avec le cidre qui sera là, enfin bon bref, venez si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer. C'est fini, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.